Aujourd'hui, la masterclass de Plantu avec Émilie Aubry.
Bienvenue sur France Culture pour la masterclass de Plantu, l'homme qu'on ne sait jamais comment appeler quand on doit l'interviewer. Doit-on dire juste Plantu ? Votre pseudo de dessinateur, ce qui est assez familier, Monsieur Plantu.
Non.
Je trouve que ça sonne un peu bizarre. Ou en effet, sobrement, Jean Plantureux, qui est votre vrai nom, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup d'avoir accepté le principe de cette masterclass aujourd'hui sur la très belle scène du théâtre de l'Odéon. Les masterclass de France Culture, vous le savez, sont l'occasion de comprendre le processus créatif d'un artiste. Alors, quelle est votre histoire avec le dessin de presse, vous qui dessinez la une du journal Le Monde depuis déjà quelques décennies, vous qui savez croquer l'actualité et les grandes de ce monde comme personne pour souligner en un seul dessin ce que plusieurs éditos ne parviennent pas toujours à dire. Plantu, l'homme qui a créé Cartooning for Peace, dessiné pour la paix, afin que plus jamais on ne tue des hommes pour leurs dessins, même lorsqu'il s'agit de caricatures blasphématoires. Cartooning for Peace qui réunit dans une association les Charbes, Cabus et autres plantus de tous les pays du monde, surtout ceux où la liberté d'expression n'est pas garantie. Une heure donc avec vous, Plantu, et je m'en réjouis pour comprendre quelle est votre histoire avec le dessin. Et cette histoire, si j'ai bien compris, elle commence par un petit garçon très sage à l'école, mais assez médiocre, parce que déjà vous dessiniez trop. C'est vraiment ça l'histoire ?
Dans la marge, on avait des cahiers Alors, jusqu'au CM2, impeccable. Hein, j'avais prix d'honneur, prix d'excellence. Et puis, justement, mes parents, emportés par l'élan, mon père rêvait que je sois à Polytechnique, le pauvre. Et donc, ils m'ont inscrit au lycée Henri IV, qui n'était pas de notre quartier. Et c'est là que le calvaire a commencé. Hein. J'ai de bons souvenirs au lycée Henri IV de mes copains, les booms, tout ça. Finkielkraut que je croisais d'ailleurs. Lui s'en souvient pas, mais moi je m'en souviens.
Il était comment Finkielkraut à Henri IV ? Très beau.
Ah oui, très beau.
C'est drôle que ce soit qui soit resté comme
ça,
souvenir.
Il y a que ça que je retiens.
Vous l'avez dessiné ?
Depuis, oui, le pauvre. pour le défendre, il y a pas longtemps, il a été alpagué par des gens qu'il détestait et j'ai ressorti une phrase de Victor Hugo, comme si je jouais au philosophe. La meute est l'ennemi du peuple et là il avait affaire à une meute et c'est là où je me rends compte que le dessin est un outil formidable pour pouvoir raconter les choses et qui s'est retourné contre moi en classe parce que j'ai collectionné les zéros au lycée. Et puis, le nombre de fois où le prof me disait « répétez ce que je viens de dire, Plantureux ». Et moi, j'étais amoureux de ma prof de français. Et par contre, je savais la dessiner de face, de profil, mais avec...
Qu'est-ce que vous dessiniez à l'époque, à part la prof dont vous étiez amoureux en secret ?
Oui, je la dessinais avec ou sans la blouse, vous voyez. Et c'était... Et donc, quand elle me disait de répéter ce que je disais, j'en sais rien. Par contre, il y avait beaucoup de choses à raconter.
Ouais.
Et donc, je me suis rendu compte que l'école n'était pas faite pour moi. Et je pense, on travaille beaucoup dans les écoles avec mon association, Cartooning for Peace, pour essayer de dire à beaucoup de gamins, vous savez, des fois, si vous avez une passion, essayez de l'exprimer. Si vous avez envie de faire du poème, de la chanson, de l'opéra, du dessin, de la danse, exprimez-le et essayez de comprendre que c'est peut-être une chance. Et c'est pour ça que je crée aussi une fondation qui s'appelle Fondation Plantu, pour essayer de mettre ensemble des jeunes qui sont un petit peu ce que je rappellerais les oubliés de la République, et puis des professionnels de la cuisine, des professionnels du sport. J'étais avec Yannick Noah il n'y a pas longtemps. S'il y a des jeunes qui sont amoureux du tennis, il faut qu'il y ait des mains tendues. Et c'est là où on va essayer de faire en sorte que notre République, qui des fois s'oublie dans certains quartiers, peut essayer de rétablir des ponts entre des petits jeunes qui des fois sont un petit peu oubliés. Et je pense à moi quand j'étais un petit peu au fond de la classe, près du radiateur, non pas pour déconner, mais c'est parce que j'étais un petit peu ailleurs.
Vous savez expliquer d'ailleurs pourquoi un enfant, pourquoi vous avez été tout de suite plus à l'aise avec les crayons qu'avec les mots.
Oui, et d'ailleurs ça m'est revenu il n'y a pas longtemps, c'est curieux, c'est un joli symbole, mes premiers pas. Alors, il paraît que j'étais très en retard surtout. Je ne parlais pas jusqu'à 10 ans déjà. Bon. Et donc, le dessin, c'était bien commode. Mais mes premiers pas, mon père m'a donné un crayon et j'ai eu le sentiment de m'appuyer sur quelque chose. Et il se trouve que cet outil était un crayon déjà. Et je crois qu'au bout d'un certain temps, j'ai compris que le dessin, l'art, pouvait être une possibilité de m'en sortir. et ma prof de français qui faisait aussi des cours de théâtre, dont j'étais toujours amoureux. Et donc, j'ai fait des cours de théâtre avec elle, et on est au théâtre de l'Odéon aujourd'hui, et je me souviens que j'avais... Alors, je dis aux enfants, faut jamais réveiller ses parents la nuit, à 3h du matin, pour leur dire « Papa, maman, je voudrais faire du théâtre ». Évidemment, ils m'ont dit « Écoute, va te recoucher », voilà. Et puis, une autre fois, 2 ou 3 ans après, je leur ai dit « Je voudrais faire de la BD, je voudrais faire du dessin ». Et c'est encore pas un bon plan de com, il faut le faire du jour, faut pas le faire la nuit. Et encore, faut trouver les mots que je ne savais pas trouver les mots.
Mais vous aviez peur des mots ?
Oui, parce que mes parents, mon père travaillait à la SNCF, ma mère a élevé ma sœur et moi, et on s'est rendu compte que on n'était pas, évidemment, c'était pas un milieu intellectuel ni culturel. Moi, la musique, je l'écoutais avec Pierre Bouteiller sur France Inter, et moi, je découvrais la musique grâce à lui. Je découvrais le jazz. On n'avait pas de musique à la maison. Et donc, je me suis fait un peu une culture à moi tout seul. Et c'est au bout d'un certain temps que j'ai compris qu'en ayant tout raté, d'ailleurs, sauf... J'ai été viré du latin, bon. J'ai été viré des maths, j'ai été viré du français, j'ai été viré de tout. À la fin, on m'a dit, va faire science. Bon, alors, d'accord, science. En plus, moi, j'aime bien les sciences. Bon. Et puis après, j'ai eu 3 en sciences au bac. Et pourtant, j'ai eu mon bac, grâce au dessin, d'ailleurs. Et mes parents m'ont dit, voilà, t'as ton bac.
Et donc, ils vous ont envoyé faire médecine.
Mais oui.
Pendant 2 ans.
Mais oui. Et j'ai dit, mais papa, maman, 7 ans de médecine, au secours. Ils m'ont dit, mais tu feras du dessin, mais après. Et donc, j'ai été rattrapé par la patrouille, parce que, évidemment, j'ai redoublé ma première année de médecine, j'ai fait une deuxième année. Donc, et à la fin, il a bien fallu faire quelque chose, et c'est là que je me suis vraiment, j'avais plus rien, j'avais plus le choix. Et mon père était, je me souviens, on s'est réconcilié après, mais il avait honte d'avoir un fils dessinateur.
Lui ne dessinait pas du tout. Il n'était pas du tout dans une famille où on dessinait.
Alors c'est drôle parce qu'il faisait du dessin industriel. Alors lui c'était à la ligne. Et c'est drôle parce que...
Mais vous aussi vous revendiquez d'avoir cette rigueur-là. Vous dites parfois que vous avez la rigueur de Hergé et en même temps que vous êtes capable de faire les blagues dégueulasses de Reiser.
Exactement. Et d'ailleurs, quand Reiser est mort en 83, Hergé était parti une année plus tôt, et donc j'avais fait un gros dégueulasse, vous savez, avec son slip, avec les couilles qui dépassent, et il arrive au paradis, et donc c'était Tintin qui accueillait Reiser, et moi j'étais très content parce que c'était la première fois qu'à l'une du monde, il publiait une couille.
Grosse révolution.
Grosse révolution.
Alors donc la médecine, ça s'est assez mal passé. Au bout de ces 2 ans, vous êtes quand même parti à Bruxelles, enfin, justement pour suivre les cours de dessin de l'école Saint-Luc, qui avait précisément été fondée par Hergé, je crois.
En tout cas, des gens de l'école de Tintin.
Comment vous avez réussi à convaincre vos parents qu'il fallait vous laisser partir à Bruxelles ?
C'était mort. J'étais viré de médecine. C'était mort. Donc, en plus, je vous le dis, encore un autre plan com raté. La même soir, je leur ai dit, je vais arrêter médecine. Je vais faire de la bande dessinée, je vais me marier et pas à l'église, le même soir. C'est pas une bonne idée.
Un peu violent. Et donc, à l'école de Bruxelles, est-ce que là, vous avez vraiment le sentiment que vous avez trouvé le domaine dans lequel vous étiez heureux ? Est-ce que la feuille blanche est devenue l'outil avec lequel vous vouliez passer chaque jour de votre vie ?
Alors, j'aurais dû y rester 3 ans, j'y suis resté malheureusement 3 mois, parce que j'avais pas l'argent pour payer, et je les remercie, parce que même mon premier trimestre, j'ai jamais payé, et ils m'en veulent pas. À Saint-Luc, des fois, de temps en temps, je vais faire une masterclass à Saint-Luc, et je les remercie. Mais j'ai quand même, en 3 mois, j'ai appris énormément de choses sur l'outil du dessin, comment on dessine un moto de fourrure, comment on va à l'essentiel dans un dessin, et j'avais un prof que j'aimais beaucoup, il s'appelait Eddy Pape, et qui lui était un grand dessinateur de bande dessinée. D'ailleurs, des fois, il me serrait la main et le soir, il allait rencontrer Hergé. Donc, je ne me lavais pas les mains pendant 3 jours.
Ouais, j'imagine. Alors ensuite, vous avez...
Depuis, j'ai pris des douches.
Nous voici rassurés. Ensuite, vous avez beaucoup ramé pour vendre vos dessins. Vous avez entamé ce long parcours. Vous alliez toquer à la porte d'un certain nombre de rédactions. Et vous avez notamment un jour, je crois, frappé à la porte de Pilote. Vous êtes tombé sur un rédacteur en chef absolument dégueulasse qui s'est retourné vers un grand casier où étaient rangés tous les dessins de ceux avec lesquels il travaillait. Et il vous a dit, vous voyez ce que l'on fait ? Ben, voyez ce que vous faites. Et vous avez mis beaucoup de mal à vous en remettre, je crois.
Oh là là, oui, parce que Pilote, pour moi, c'était...
Le Graal.
Oui. Le Graal, c'était Charlie Hebdo. Oui. Mais comme j'avais des copains qui étaient allés à Charlie Hebdo, qui n'avaient pas été bien reçus, je me suis dit, mes dieux, j'y touche pas. Donc, j'ai pas rencontré mes dieux à ce moment-là, Reiser, Cabu, Fournier, Willem, tout ça. Et je les ai rencontrés bien plus tard. Et puis, je me suis lancé dans le dessin. Évidemment, ça n'a pas marché du jour au lendemain. J'ai commencé dans des journaux étudiants à Bruxelles. Ensuite, je suis revenu à Paris. Et puis j'ai vendu des meubles aux Galeries Lafayette, au sixième étage. Et je vendais des escabeaux. J'étais très fort en... Je vendais très bien les escabeaux. Quand les gens venaient pour acheter un escabeau, ils repartaient avec deux. Et d'ailleurs, les...
Vous êtes passé à côté d'une grande carrière.
Mais oui, les vendeurs, oui, mais justement. Les vendeurs venaient me dire, arrête, parce que moi, j'étais que de passage. Et eux, ils étaient là pour longtemps. Ils me disaient, arrête, nous... Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que pour rentrer dans un journal, il faut savoir vendre, entre guillemets, ses dessins. Et en fait, ça m'a beaucoup été utile quand j'avais la pause de 11h au Guerrier Lafayette, je téléphonais parce que la nuit, j'avais déposé un dessin au Monde, qui était pour moi mon journal que j'aimais et que j'aime toujours. Et puis, résultat, bah, ils me disaient pendant des mois, ils m'ont dit, bah non, donc je continuais à vendre des escabeaux.
Mais qu'est-ce que vous alliez vendre, justement? Parce que je sais qu'aujourd'hui, où il vous est arrivé de vous définir à la fois comme un dessinateur et comme un dessinateur-journaliste, ou un journaliste-dessinateur, est-ce qu'à l'époque, vous étiez déjà les deux? Qu'est-ce que vous alliez leur vendre? Et à l'époque, quelle était votre relation à l'actualité?
Ben, vous savez, on est dans un théâtre à l'Odéon. Molière, il nous a raconté dans Monsieur Jourdain, il savait pas qu'il faisait de la prose ou des vers. Moi, je ne savais pas que je faisais un métier qui s'appelle dessinateur de presse, caricaturiste. Même artiste, j'osais même pas l'imaginer. Et donc, je voyais bien qu'il y avait des dessins que j'arrivais à proposer. Il y avait un journal qui s'appelait 20 ans. Il y avait le journal Podium de Claude François, tout ça. Ils me publiaient des dessins. Et puis...
Mais ils publiaient quoi? Qu'est-ce que vous leur vendiez?
Eh ben, des dessins... dans le journal Lui. J'ai même fait des dessins dans le journal Lui. À chaque fois, je me disais, tiens, je vais peut-être rencontrer des filles superbes. Mais en fait, non, je rencontrais que des rédacteurs en chef. Et puis à la fin, c'est devenu une expression toute simple. J'ai envie de faire un dessin drôle sur la société. On parlait beaucoup de la Rhodésie, on parlait beaucoup de l'Afrique du Sud. Et donc, je sentais bien qu'il y avait des choses à faire. Et puis, j'étais impressionné par la lecture de Charlie Hebdo, du journal Le Monde. Et je me disais, tiens, il y a des choses à faire. Et quand, d'ailleurs... Claude Julien, qui était le rédacteur en chef du Monde diplomatique, m'a demandé d'animer des articles que je ne comprenais pas. Vous voyez, quand on est avec avec vos amis journalistes et intellectuels sur France Culture, il y a des fois des... Alors évidemment, je rattrape un peu parce que je regarde sur Google, je regarde des articles, je refouille dans mon journal ou je voudrais ressortir des vieilles archives pour mieux me documenter. Mais des fois, je me souviens qu'avec Claude Julien, le directeur du Monde diplomatique, il y avait des articles qui me demandaient d'illustrer que je ne comprenais pas. Je les lisais deux fois,
parce
trois fois.
Parce que vous étiez quel genre de consommateur d'informations et d'actualités? Vous disiez, vous avez toujours été un grand lecteur du Monde. Est-ce que vous écoutiez beaucoup la radio?
Mais le Monde diplomatique, c'était pas pareil.
C'était pas la même chose. C'était pas la même.
Vraiment, là, j'avais commencé très fort. Et en fait, il m'a pris sous son aile. Il me faisait penser à Mitterrand, d'ailleurs, Claude Julien. Il m'avait pris sous son aile. Et comme Bernard Lauzanne au journal Le Monde, ils m'ont pris sur... Ils m'aimaient bien. Il y a quelque chose... J'avais 20 ans, ils m'aimaient bien. Ils m'ont dit, on va te faire ton éducation. Ils vous voyaient. Hein. On va vous faire votre éducation. Ils ne me disaient pas cette phrase, mais en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que Annick Cogent fait une série avec Raphaël Baquet dans Le Monde sur les gens qui ont tendu la main à des jeunes. Faut jamais oublier, et je le dis beaucoup dans les écoles, essayez de comprendre, il y a des gens, des fois, ils vous tendent la main. C'est une occasion comme la fois où j'étais à Tunis et puis que Yasser Arafat a voulu me rencontrer. Et c'est une main qu'il fallait saisir.
Alors avant cela, en 1972, peut-être parce que ça y est, vous avez acquis ce bagage, je ne sais pas comment il faut l'appeler, journalistique, politique, géopolitique, vous rentrez au journal Le Monde avec un premier dessin sur la guerre du Vietnam, le 2 octobre 1972, un dessin de colombe volant avec un rameau en forme de point d'interrogation qui accompagnait un article sur le Vietnam.
Oui. Et quand vous dites « je suis rentré, ma vraie rentrée au Monde », vous pensez bien que c'était pas une rentrée, c'était un dessin. Ah, il y a un dessin. Le rédacteur en chef, Bernard Lauzanne, dit « ben voilà, samedi, à 14h30, le journal sera imprimé, il y aura votre dessin avec la petite colombe ». Donc c'était un dessin de 4,5 cm sur une colonne, et noyé au milieu des articles en page 3, et c'était pour moi...
Un diplôme.
Mais c'était un diplôme. Et j'étais très fier, Mais j'ai été très longtemps, j'ai travaillé dans un couloir au journal. J'ai travaillé avec des armoires éventrées où je mettais tous mes dessins, tout le monde me les piquait d'ailleurs. Et c'est drôle parce qu'il y a des rédacteurs en chef que je vois des fois au théâtre, ils me disent « Oh ben tu sais Jean, je peux te le dire aujourd'hui, j'ai tel dessin dans ma cuisine, j'ai tel dessin dans mon couloir, j'ai ça dans mes WC. » Et c'est des dessins que j'ai cherchés à quatre pattes par terre. Je dis, mais ils étaient là sur mon bureau. Et donc j'avais un petit bureau rue des Italiens qui était un couloir avec une armoire en fer qui fermait jamais. Et donc tout le monde piquait mes dessins. Il fallait que je me balade avec mes dessins sous le bras. Sinon on ne pouvait pas imprimer parce qu'ils étaient piqués.
Alors après, vous n'avez plus jamais quitté Le Monde, c'est vraiment votre maison. En 1985, le directeur du Monde de l'époque, André Fontaine, décide de vous donner chaque jour une place en une. Alors c'est vrai que cette place très privilégiée, elle va évoluer avec le temps. Aujourd'hui, quelques années plus tard, on va aussi vous confier une page pleine dans l'Express. De ce moment-là, Plantu est devenu la star du dessin de presse en France. Est-ce que vous, vous l'avez vécu comme ça? Ça donne un très grand pouvoir de dessiner tous les jours à la une du Monde.
Ouais, j'ai toujours réglé le problème en me disant c'est ce qui se passe avec un autre. C'est pas moi. Et je vais faire comme si... vous savez, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais, j'usurpais mon rôle et que j'étais une sorte d'escroc. Et je me dis, tiens, ils ont l'air de me prendre pour Plantu. On va faire... Là, on me retrouve avec vous, Émilie, à France Culture. Je me dis, bon, elle n'a pas dû piger parce qu'elle m'invite quand même. Je suis au théâtre.
On est nombreux à se dire ça, vous savez.
Et puis, en fait, l'escroquerie marche. Donc, je me dis, on va voir si ça va continuer comme ça. Vous savez, c'est comme la drague avec les filles. En fait, on se rend compte que, tiens, il y a un truc qui marche. Et là, vous m'écoutez très gentiment avec le doigt comme ça sur la joue, comme ça. Elle a l'air de prendre.
Je prends ça très au sérieux. Je me suis demandé quel rapport vous aviez avec les politiques, parce que j'entends bien que vous minimisez le pouvoir que cela vous a conféré, etc. Mais enfin, tous les jours, vous donnez une autre identité à des responsables politiques. On pense notamment à Nicolas Sarkozy, avec qui vous avez eu des relations parfois un peu compliquées. Il n'aimait pas tellement, notamment, cette espèce de petite mouche que vous dessiniez à chaque fois.
Il a le droit. Il aimait pas ce que je fais, mais il faut dire, j'ai quand même fait tout pour qu'il aime pas, quand même. Donc,
mais ce qui est amusant, c'est qu'il n'a pas été tellement dérangé par le fameux personnage d'Isnogoud, qui est quand même la figure du traître absolu.
Exactement.
Mais ce qui le dérangeait, c'était la petite mouche. Alors, racontez le référentiel
de
cette
drôle.
Petite mouche.
Il y avait un dressin de Reiser. Il avait dessiné à la une de Charlie Hebdo Franco, le dictateur espagnol. Et il y avait marqué Franco, dictateur, pourriture, PD. Et Franco disait, pourquoi PD? Et ça m'a beaucoup marqué. Moi, je les aime, les hommes politiques. Et je vais vous dire, avec tous les dessins que j'ai faits sur, j'ai rencontré François Hollande il y a pas longtemps. Il m'a dit, vous m'avez torturé. J'ai dit, mais à côté.
Vous dessiniez de façon assez sympathique. Bon, il y avait le côté joufflu, débonnaire.
Ouais, il en avait marre, hein, quand même. Et je lui ai dit, mais par rapport à Sarko, enfin, je veux dire, c'est peace and love, hein, côté. Et donc, voilà, c'est comme ça.
Vous l'avez pas dit, mais la petite mouche, c'était l'attribut que vous prêtiez jusque-là à Jean-Marie Le Pen. Donc, c'est ça que Nicolas Sarkozy vivait assez mal.
J'ai commencé à netter. Je veux dire, parce que, Sarko, il disait, je parle avec mes tripes. Et il dit ça en plein mois d'août. Et moi, j'ai dit, les tripes, en plein mois d'août, il y a des mouches. Et donc, je vais le dessiner avec des mouches. Et puis, et alors, justement, il y avait un accord. Je me souviens qu'il y avait Eric Fotorino, qui était mon directeur du Monde. On est resté amis. Hein. C'est pas facile de travailler avec moi. Et puis, on est resté amis. Et il m'avait dit, écoute, là, j'ai un problème parce que ça fait deux fois qu'il me demande d'aller à l'Élysée. Il y a un problème avec les mouches. Je dis quoi, les mouches? Et j'y pensais même plus. Il me dit, voilà, on va faire un accord. Tu vas nous faire trois mouches. Et puis, pas plus. Hein, voilà. Et un jour, j'en fais 15. Et alors, il me téléphone, il me dit, il y en a 15, mais on avait dit 3. Et donc, oui, c'est vrai, j'ai oublié.
Bon, il y a quand même une espèce de rébellion à la hiérarchie, quand même, chez vous.
Oui, alors, le dessinateur de presse, il est quand même le gars, il est, alors, vous avez bien vu que j'ai plusieurs années de vol, quand même, donc, je peux pas jouer l'adolescent, mais il y a quelque chose, quand même, du gars qui pète les carreaux du préau de l'école. Mmh. Ce que j'ai jamais fait quand j'étais à l'école, d'ailleurs.
Vous avez pas été un sale môme, donc vous l'avez été au Monde?
Demandez-leur, je crois pas, quand même. Oui. Parce qu'en fait, c'est une famille, Le Monde, voyez, ou les dessins avec l'Express. C'est-à-dire que, en fait, je me rends compte que c'est comme quand on est en famille, on n'est pas forcément d'accord, et puis on discute, et puis des fois, on n'est pas d'accord sur différents points, mais on s'aime. Et ça aide beaucoup, et au bout du compte, des fois, ils me disent, écoute, là, Il y a des fois, ça pète un peu de temps en temps, mais à la fois, on s'aime parce qu'on a la même, on est amoureux de nos lecteurs et on a une même culture en commun et on a envie de participer. Vous voyez, quand un dessin est réussi, il va aller vers l'essentiel, le lecteur. Et l'essentiel, c'est les écrits, c'est les articles des journalistes.
Alors, vous parliez de famille au sein de laquelle vous êtes maintenant chez vous, et pourtant, j'ai été très déçue en préparant cette masterclass d'apprendre qu'en fait, vous ne travaillez pas au Monde. Vous avez un bureau à part, vous en tenez soigneusement à l'écart. Alors, comment ça se passe? On vous appelle le matin, racontez-nous un petit peu
le cauchemar
de vos matinées, si j'ai bien compris.
Alors, le cauchemar, oui, ça c'est vrai, c'est toujours le cas. Mais oui, parce que en plus, j'habite au 4e étage à Paris, et des fois, je le ferai jamais, hein, mais j'ai vraiment envie de me foutre par la fenêtre parce que je trouve rien. Je sais pas quoi penser. Quand j'écoute vos émissions, je prends des notes. Au moins, il y a des notes, là, vous voyez, là, il y a un papier, j'ai pris des notes. Il y a des matins, je trouve rien. Et même des fois, j'essaye de faire un truc ressemblant avec telle ou telle femme ou homme politique, ça vient pas. Et il y a des fois, je suis vraiment malheureux. Mais la véritable raison pour laquelle j'ai longtemps travaillé au journal, où j'ai un bureau avec Maïté, qui est mon assistante et que je vénère énormément, parce que en fait, on travaille énormément avec les lecteurs. Les lecteurs, ils m'écrivent énormément. Il y a des gens qui veulent faire des expos, il y a des gens qui me disent « Ah, votre dessin, il me fait penser à un autre dessin que vous avez fait dans les années 80. Bon. » Et donc, on envoie par la poste. Merci la poste, hein, parce qu'on les fait beaucoup travailler. Et on envoie énormément de dessins, de reproductions, de livres par la poste, pour essayer de garder ce lien avec ces lecteurs qui sont mon amour premier au journal, puisque moi je me sens proche quand je vais à la réunion à 5h au journal Le Monde. J'y suis tous les après-midi.
Donc vous allez à la réunion à 5h, voilà. Et qu'est-ce qui se passe ensuite le lendemain matin? Vous attendez le choix de une.
Voilà, et je suis chez moi, parce que avant je travaillais dans un bureau où il y avait une vitre, et les gens qui visitaient le journal, je voyais bien qu'il y avait des gens qui s'arrêtaient devant la
vitre. C'était un incontournable de la visite.
Et donc j'avais l'impression d'être aux zoos. J'ai vu le moment, ils allaient me jeter des cacahuètes, et moi, dès que je vois des gens passer dans un couloir, ça y est, si j'ai le début d'une idée, c'est mort. Ce qui fait que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que quand j'ai une idée, je la note sur un papier, et ça suffit pas, je la prends en photo avec mon mobile et je me l'envoie en texto dans la nuit, ce qui fait que le lendemain matin, ah oui, il y avait ça, et donc j'ai toutes ces notes là qui me viennent, et c'est mon début d'antisèche du matin. Et à ce moment-là, je propose 2-3 brouillons aux journalistes, et des fois malicieux, le journaliste me dit alors merci Jean, on a reçu tes 3 brouillons, on attend le 4e. Ce qui fait qu'une manière de dire, c'est la matinée foireuse.
Soit parce que le brouillon n'est pas satisfaisant, est-ce qu'aussi parce qu'il y a ces changements de une, vous dites que parfois vous avez une demi-heure parce que juste la une vient de changer, donc il faut vous adapter. Alors comment Plantu, qui justement est souvent en panique devant l'actualité, avec peur de ne pas la maîtriser, gère cette urgence du dessin?
Eh bien, il y a la magie. Il y a l'alchimie du dessin. Alors là, faut rentrer dans la tête du dessinateur. Je me souviens que quand, en 96, François Mitterrand est décédé, on l'a appris à 11h, ils m'ont dit « t'as un quart d'heure », on changeait la une, et « t'as un quart d'heure pour faire un dessin ». Je dis « mais attends, c'est la mort du Mitterrand ». Ils m'ont dit « mais ça fait 6 mois qu'on te dit qu'il est mourant, t'as pas préparé quelque chose ?» Et je dis « bah non, j'ai rien préparé ». Et donc, il a fallu que j'invente quelque chose. Et comme il est mort en janvier, je me suis dit, j'ai fait De Gaulle qui accueillait Mitterrand. Et De Gaulle lui disait tous mes vœux d'éternité, puisque au mois de janvier, on envoie ses vœux. Voilà, Mais c'était fait sur le pouce. Hein.
Alors après la politique, venons-en à la géopolitique. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. En fait, vous avez tout le temps envie d'en parler de cette histoire, parce que je pense qu'elle a considérablement marqué votre vie, ce qui s'est passé en 1990 avec Yasser Arafat, c'est-à-dire ce moment où, j'imagine, le dessinateur a l'impression soudain qu'il est un acteur de la vie internationale.
Exactement. C'est...
Racontez-nous.
J'étais à Tunis, je faisais une exposition de dessin. Je peux vous dire à quel point je faisais une expo avec un dessinateur syrien qui s'appelle Ali Ferzat, qui a été 10 ans après torturé par les sbires de Bachar el-Assad. Et donc on était à Tunis, et dans cet hôtel géré par un Palestinien, comme par hasard d'ailleurs, la nuit on me téléphone et on me dit Yasser Arafat veut vous rencontrer. Je dis bah oui, et puis le pape, pourquoi pas, oui d'accord. Et donc j'y ai pas cru, et donc j'ai raccroché. Et puis ils m'ont rappelé, et là à l'époque, on avait un correspondant à Tunis qui s'appelait Michel Doré. Je lui ai dit, il y a un monsieur qui s'appelle, et celle donne son numéro de téléphone. Il me dit non, c'est sérieux, Il était au courant que Arafat souhaitait me rencontrer. Et donc, on s'est retrouvés la nuit dans un hôtel, ensuite dans une autre voiture, dans un autre hôtel, toujours dans des Peugeot pourris avec des Kalachnikovs partout. Et puis, il était, à ce moment-là, réfugié politique en Tunisie. Et après, on se retrouve dans une villa, toujours la nuit. Et au bout d'un certain temps, il y a un gars qui ressemble à Gainsbourg, avec des lunettes. Et je me disais, mais il a une barbe de 3 jours, on dirait Gainsbourg. En plus, il a une serviette de table sur la tête. Et il me dit, bonjour, Monsieur Plantou. Et Monsieur Plantou, il me dit...
Ça, c'était la gloire, quoi.
Il a l'air de me prendre pour le dessinateur du journal Le Monde. Et donc, je me suis dit, l'escroquerie marche. Et donc, je lui ai posé des questions incroyables. Ça a été très spontané parce que j'avais l'impression de parler comme si on se connaissait et je ne savais pas qu'il connaissait mes dessins et donc il m'a utilisé dans le bon sens du terme. Vous savez, des fois on dit les journalistes ils ont été manipulés. Il m'a manipulé et il m'a manipulé parce qu'à l'époque il n'était pas capable de dire je reconnais le peuple israélien, je reconnais Israël, mais à la fois je me suis rendu compte que d'abord je l'ai fait dessiner. Et puis je lui ai dessiné les deux drapeaux, les contours des drapeaux. Il m'a fait les couleurs. Et je lui ai, alors j'ai toujours des pleins de feutres dans mes poches. Je lui ai donné le feutre bleu pour faire l'étoile de David du drapeau israélien qu'il a dessiné.
Lui, il a tout pas dessiné, capable. C'est ça, le drapeau, dessiné. Les deux territoires.
Tout. Et il l'a signé. Et en revenant, c'est pour vous dire, des fois l'intolérance elle est un peu dure. C'est que quand je suis revenu, on m'a dit, tu as été voir un terroriste. Oui, mais d'accord, mais vous avez vu, il y a un accord de paix. Et non, c'est pas. S'il y a encore, il y avait une signature israélienne, d'accord. Mais alors, du coup, je suis allé voir Mitterrand à l'Élysée, et puis Védrine aussi, et puis je leur ai dit, mais du coup, ce serait bien que je puisse vous suivre. Il allait voir Yitzhak Rabin à l'époque. Et puis, donc, quelques mois après, je les ai suivis. Il m'a proposé même d'être dans son avion. J'ai dit, ah non, je veux pas aller dans votre avion. Je vais aller avec les journalistes. Alors, j'étais avec l'avion des journalistes. Et puis, il m'a aidé à me retrouver avec Shimon Peres, qui n'était pas encore président d'Israël. Et puis finalement, ce dessin commencé par Arafat, il a été terminé par Shimon Peres. Et quand je suis revenu, on m'a dit, ah ben alors, t'es sioniste. Donc, une fois, je suis pro-palestinien, pro-Arafat, le lendemain, je suis pro-sioniste. Et finalement, je m'aperçois, j'ai créé une forme d'indépendance d'esprit où j'ai déçu tout le monde. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on compte sur moi. Je veux pas que... d'ailleurs, on s'était engueulé une fois avec Arafat, une autre fois. Il m'avait insulté en arabe, je comprenais rien. Et il y avait les gars en Kalachnikov qui étaient autour, je commençais à entendre le bruit des Kalachnikov. Je me dis, attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Et puis après m'avoir engueulé, il va dans la cuisine à côté. 20 minutes après, il me dit, venez manger. C'est toujours la nuit, en plus, 14h du matin, moi manger, bon. Et il épluche une orange. Et il me tend des quartiers d'orange. Je vous dis, il y avait une ambiance de merde. Et je me dis, et donc je mange ces quartiers d'orange en me disant, je sais pas, il y a pas un truc dedans, je sais pas quoi. Et donc ça a toujours été comme ça. Et même avec quand il est devenu président, Shimon Peres, je lui ai montré des dessins sur les territoires occupés. Moi, j'ai toujours été contre. Moi, mon vœu, c'est d'aimer tout le monde et que tout le monde m'aime. Mais à la fois, je lâche rien quand je crois à une idée politique. Les territoires occupés, je suis contre. Le mur, je suis contre. Et donc je discute avec les dirigeants israéliens, palestiniens, français. Et du coup, j'invente un nouveau langage, comme je l'ai fait il y a pas longtemps avec le recteur de la mosquée de Paris.
Avant cela, justement, ce mélange d'engagement et de Plantu Peace and Love, finalement, vous l'avez parfaitement matérialisé ou incarné. Vous allez jusqu'au bout de cette démarche en créant en 2006 Cartooning for Peace, ce désir commun que vous aviez avec Kofi Annan, qui était à la tête de l'ONU à l'époque, d'organiser un grand rassemblement de dessinateurs. Et encore 2015, dont nous allons parler ensuite, n'était pas arrivé, comme si vous aviez une sorte de pressentiment du basculement du monde.
Et c'est là où Kofi Annan m'a appris ce que c'était que les réseaux sociaux. Moi, je ne savais pas. J'avais Internet, on travaillait déjà avec Internet, mais réseaux sociaux, ce n'était pas des mots que j'utilisais. Et il m'a dit, tu vois, avec les fatwas lancés contre les dessinateurs danois qui avaient osé faire ce qu'on a dit, les caricatures du prophète, dans le journal de Jyllands-Posten à Copenhague. Et quand il y a eu 200 morts au Pakistan, avec les manifestations contre l'Europe, en fait c'était des manifestations manipulées contre les Européens, on s'est dit, là il y a un problème, au-delà de la politique, et c'est là où il m'a demandé de réunir à l'ONU, aux Nations Unies, à New York, des dessinateurs, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées, et c'est là qu'il m'a rattrapé par la manche, il m'a dit, t'as pas compris, si tu crois que tu vas rentrer chez toi, il faut que tu crées une fondation, il faut que tu crées une association, pour rassembler ces dessinateurs et essayer de comprendre que maintenant, il y a avant et après les réseaux sociaux, comme il y a avant et après le 11 septembre. C'est le 11 septembre de la pensée libre, c'est les manifestations contre les ambassades du Danemark et européennes. C'est que, d'ailleurs, j'avais une expo qui devait avoir lieu à Beyrouth à ce moment-là, qui a été annulée, évidemment. J'avais une autre expo qui devait avoir lieu au Pakistan, qui a été annulée. Parce que c'est là où on s'est rendu compte qu'un dessin peut être dit, écrit, dessiné dans, par exemple, quand on est dans une arrière-boutique ou une arrière-salle, ou ici au théâtre de l'Odéon, ou dans une arrière-salle d'une brasserie LIP, où je rencontrais souvent Cabu d'ailleurs, à Paris. Mais c'est, oui, mais avec les réseaux sociaux, c'est pas la même chose. Le même dessin, où d'ailleurs je les connaissais bien, les dessinateurs danois, je suis allé à Copenhague, c'était passionnant de discuter avec tous ces dessinateurs, jamais ils ne se sont levés le matin en voulant humilier 1 milliard de musulmans. Or, c'est comme ça que ça a été compris.
D'ailleurs, vous avez une espèce de, je sais pas comment appeler ça, de modération ou de tempérance qui a pu parfois vous être reprochée, notamment par vos camarades de Charlie Hebdo, qui disaient que vous aviez peut-être une interprétation moins radicale que la leur en ce qui concernait la liberté d'expression.
Ah oui, mais
notamment lorsqu'il s'agissait de prendre des précautions pour représenter les religions. Est-ce que ça fait partie, effet, de votre identité ou frilosité?
Ah non, parce que, écoutez, c'est ce moment, on en reparlera dans 10 ou 20 ans. En ce moment, on est en train de fêter à la BNF, il y a 30 000 dessins qui vont à la BNF, à la bibliothèque Mitterrand. Et ils vont être stockés. Et vous y verrez des dessins que j'ai faits et qui ont été imprimés et qui alimenteront des débats et qui feront que mes petits camarades de Charlie Hebdo se rendront compte que j'ai fait le même travail qu'eux. Mais à la fois, là où il y a un énorme problème, c'est que j'ai défendu tout le temps les dessinateurs danois et j'ai même vu mes copains de Charlie en leur disant, vous savez, la planète, elle est en train de changer. Quand on fait un dessin à Saint-Germain-des-Prés, il est dans 2 secondes, il est à Beyrouth, il est à Amman, il est au Caire. Et donc, c'est pas le même dessin. Et j'ai essayé d'avertir tous mes copains en Europe. Je leur dis, il faut rien lâcher sur ce à quoi on croit. Si on croit que Palestine, Israël, il faut rien lâcher. Là, je défends un dessinateur, Antonio, qui a été l'objet d'une polémique au New York Times. Il avait dessiné Trump avec une kippa. Moi, je le défends.
Et depuis, au moment où on enregistre cette émission, le New York Times a décidé de ne plus mettre de dessin à sa une, ce qui est une espèce de révolution impensable, j'imagine, pour vous.
C'est une connerie.
Une connerie ou une révolution, je ne sais pas.
Oui, non, c'est une connerie. Ils vont revenir, évidemment, là-dessus. Et donc, du coup, ils ont publié un dessin considéré comme antisémite. Et d'ailleurs,
racontez ce qu'était ce dessin, peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas vu.
C'est un dessin qui représente Trump avec des lunettes noires, il a une kippa et il a en laisse un chien, et ce chien c'est Netanyahou, le premier ministre israélien. Et il a un collier avec l'étoile bleue du drapeau israélien. Et là où je défends ce dessinateur, qui n'est pas antisémite, je le connais depuis très longtemps, il est de Lisbonne, pourquoi il est considéré comme antisémite? Parce que les réseaux sociaux ont très bien fait leur boulot de manipulation. C'est-à-dire que là on est dans le cœur du sujet. Et je vous parlerai d'une dessinatrice allemande après, parce que c'est le même sujet, mais elle a fait des dessins sur le voile. Et en Allemagne, elle est considérée comme anti-islamique, alors qu'elle n'est pas du tout anti-islamique. Elle fait des dessins pour dire la bonté du voile en Allemagne, et donc elle n'est pas du tout... Je reviens sur le dessin d'Antonio, dessinateur portugais, publié dans le New York Times. Il dessine Trump avec une kippa. Ça, je vous le dis tout de suite, je le ferai jamais. Il dessine Netanyahou avec une étoile de David du drapeau israélien. Et j'y aurais mis, moi, si je l'avais dessiné, évidemment, les deux traits du drapeau israélien. Au bout du compte, je connais les réseaux sociaux. Et quand Antonio a fait ce dessin-là, il voulait aller jusqu'au bout de son boulot de dessinateur de presse, qui n'est pas antisémite. Il est considéré comme beaucoup... comme antisémite. Trump a dit que c'était un dessin antisémite. Il n'est pas antisémite. Il a un dessin casse-gueule, que moi, je n'aurais pas fait, parce que je connais les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut continuer à ne rien lâcher. Et d'ailleurs, je le dis en passant, Netanyahou était là, le défilé de la marche, où on était 4 millions de personnes dans Paris, le 11 janvier, pour défendre Charlie Hebdo, pour défendre la liberté d'expression, défendre la caricature. Et donc, Netanyahou est peut-être le premier à défendre la caricature dans ces cas-là, c'est pas ma tasse de thé, mais à la fois, je continue à penser qu'il faut défendre ce dessinateur, et à la fois, je pense qu'il faut se dire, attention, quand on fait un dessin, on est utilisé sur les réseaux sociaux et ça peut se retourner contre nous. Et il y a une autre dessinateur, une dessinatrice, alors là, c'est il y a quelques jours, qui s'appelle Becker et qui est en Allemagne et qui a la même fougue des réseaux sociaux qui fait qu'elle est interdite parce qu'elle a dessiné des dessins sur le voile et il y a des gens qui manipule notre rôle de citoyen, on essaye de s'informer, et qui font croire qu'elle est anti-musulmane, alors qu'elle ne fait que critiquer la montée du voile en Allemagne. Et elle a le droit. Est-ce que j'aurais fait les mêmes dessins? Non, mais c'est pas grave. Il faut défendre tous ces dessins. Et d'ailleurs, je me rappelle que Charlie Hebdo avait quand même viré un dessinateur qui s'appelle Ciné, qui était un immense dessinateur. Il a été viré pour antisémitisme, pour une phrase qu'il avait écrite, c'était pas un dessin, une phrase qui était pas ma tasse de thé, mais qui ne faisait pas de lui un antisémite. Or, il a été viré pour antisémitisme. Et c'est pour ça que je vous reviens sur les écoles. Et c'est que quand on va dans les écoles, il y a plein d'enfants qui disent, ah ben, ça va, j'ai compris. On n'a pas le droit de faire de l'humour sur tel sujet, mais par contre, enculer mon prophète, on peut. Et ben, ça, le deux poids, deux mesures, je l'entends tout le temps dans les écoles. Et d'ailleurs, très souvent, il y a des petits gamins de 10, 11, 12, 13 ans qui me disent encore aujourd'hui, vos copains, ils ont été assassinés, c'est bien fait, ils l'ont cherché. Il y a même une
Qu'est-ce
prof...
que vous leur répondez? Qu'est-ce
ah
que bah vous leur dites?
J'ai tout un matériel. Je suis toujours avec mon iPad et j'ai tout ce qu'il faut. Je la connais tellement, cette fragilité de droit tout le temps. J'étais à Marseille il n'y a pas longtemps, il y a un gamin qui me dit, mais attendez, vous dessinez des tas de trucs sur la religion. Je dis, mais non, je dessine pas. Quand Malala, la petite pakistanaise, elle est empêchée d'aller à l'école au Pakistan. C'est pas une histoire de religion, c'est des intolérants qui tirent sur une pauvre petite lycéenne, qui est devenue prix Nobel de la paix après, pour essayer juste de dire, moi je veux étudier, je suis une fille, donc je défends le droit des petites filles, ça n'a rien à voir avec la religion. Et il m'a dit, mais non, arrêtez avec ça, dessinez des papillons. Alors là, il y a eu un grand blanc, j'ai dit, bah quoi, dessiner des papillons? Oui, d'accord, je peux dessiner des papillons, mais il était tout petit, il avait 12 ans, il me dit, dessiner des papillons. Et donc, il y avait même une prof qui, alors là, c'était un autre endroit, dans le nord de Paris. La prof prend le micro, elle me dit, mais enfin, qu'est-ce qu'ils avaient besoin aussi de décider, des dessins sur la religion? Je dis, mais attends, quand il y a un imam à Brest qui dit, quand les filles se mettent à chanter, elles sont transformées en cochons, je m'en fous de la religion. Je défends le droit des femmes. Je défends le droit des petites filles. Et quand je suis allé au Soudan et que j'étais avec un dessinateur qui s'appelait Hamza, qui faisait de la pédagogie dans les écoles pour qu'on arrête de mutiler les petites filles, on s'en fout de la religion. On fait juste des dessins sur la pédagogie, sur la société et sur le vivre ensemble. On veut vivre ensemble.
Cet engagement-là, il occupe quelle place aujourd'hui dans votre vie et quel a été le moment de bascule juste après le 7 janvier? Est-ce que, voilà, le 8 janvier 2015, vous vous êtes dit qu'une partie importante de votre vie désormais, ce serait d'aller porter cette parole-là?
Oui, il y a la création de Cartooning for Peace, c'est 2006, et puis 2015, le drame du 7 janvier, et là où Tinius, ou Walensky, qui fait aussi partie de Cartooning for Peace, Tinius, on était 15 jours avant en train de dessiner ensemble, lui aussi de Charlie Hebdo, Willem, qu'on avait fait venir d'ailleurs pour Cartooning for Peace en Nouvelle-Zélande, on voit tous ces dessinateurs qui sont assassinés, et je les connaissais tous par cœur, évidemment. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des paroles qu'il faut, quand on va dans les écoles, par exemple, liberté, égalité, fraternité. Je vais dans les écoles, souvent casse-gueule, hein, c'est là où je veux aller. Il y a pas longtemps, j'étais dans une école à Verviers, en Belgique, où là, vraiment, il y a un taux de chômage qui est terrible, et on discutait avec des petits musulmans qui étaient adorables, mais qui me disaient à chaque fois, il y en a un qui était pâtissier, il me disait, à chaque fois qu'il y a un attentat, moi, j'ai plus de boulot. Donc, je l'entends, cette stigmatisation. On est allé à travailler à Molenbeek, à Bruxelles, et je l'entends, tout ça, cette parole-là. Il faut échanger. Et il n'y a pas longtemps, j'étais dans le sud, du côté de Toulouse, il y avait un gamin, d'ailleurs, ils étaient 500, il y en a un qui lève le doigt, et les autres, ils disent, non, lui, pas lui, c'est le feuge. Et alors je veux voir les profs, je dis, c'est quoi le problème? Non, il n'est pas juif, mais il n'aime pas. Et donc j'avais compris dans cette école, quand il y en a un qu'on n'aime pas, on l'appelle le feuge. J'ai dit, attends, il y a du boulot là. Et donc ça veut dire qu'il faut... Et on revient avec des dessinateurs palestiniens, et on revient, Kishka, elle était avec nous dans Seine-Saint-Denis, les dessinateurs israéliens, on était avec le département, avec Stéphane Troussel, on fait venir dans plein de lycées des dessinateurs tunisiens, israéliens, palestiniens. Il faut renouer un dialogue.
On sent que désormais ça occupe une place prépondérante dans votre vie. Je crois que vous y allez quasiment chaque semaine ou chaque semaine de votre vie. Il y a quelque chose qui relève de cette mission-là. Depuis 2015 aussi, vous vivez sous protection policière. Est-ce que vous avez le sentiment que la vie ne pourra plus jamais être comme avant et qu'on ne sera plus jamais comme avant dessinateur de presse ou qu'on vit juste une sorte de parenthèse un peu cauchemardesque à laquelle vous avez contribué de la faire sauter assez vite?
Cauchemar, faut pas exagérer, mais c'est vrai que c'est pas simple. Et tout à l'heure, avec l'officier de sécurité, il me disait, vous faites quoi demain, vous faites quoi après-demain, telle heure, telle heure, telle heure. Et il me demande les adresses, les lieux de rendez-vous, voilà. Et quand je suis allé parler à, j'étais étonné, quand je suis parlé à Polytechnique, pour rendre hommage à mon papa, qui aurait bien aimé que je sois à Polytechnique, bah, c'était pour parler de mon boulot à Polytechnique, ils avaient envoyé, les gens, la cellule anti-déminage.
Ça change un peu la vie, quand même.
Oui, ça fait un peu curieux. Mais enfin, bon, je veux dire...
Est-ce qu'on prend son crayon avec la même insouciance qu'avant? Est-ce que
non,
désormais,
non.
Vous...
Voilà. Maryse Wolinski, que je vois régulièrement et que j'embrasse, elle me dit que le mot insouciance, ça fait plus... c'était un mot qui a accompagné son mari, Georges Wolinski. Le mot insouciance, c'est fini. L'insouciance, non. C'est fini. Et quand je vous dis que je vais dans les écoles et que je revisite les mots liberté, égalité, fraternité, il y a des gamins qui, entre eux, disent frère, frère, hey, frère, salut frère, pousse-toi frère. Et je dis, mais attends, moi, je suis quoi là? Et donc je lui dis, il y a liberté, égalité, fraternité. Fraternité, c'est frère, c'est sœur. Et quand je fais un dessin, et quand je veux faire un dessin qui soutient un Palestinien sous les bombes israéliennes, je le soutiens, je vais jusqu'au bout. Et mes lecteurs, dans ces cas-là, sont mes frères et mes sœurs. Et quand je fais un dessin qu'à Jérusalem, quand il y a un attentat contre, dans un bus à Jérusalem contre des civils israéliens, je les défends. Et je me fous de savoir si je vais être traité de pro, ceci, je m'en fous. Et je me fais engueuler régulièrement. Vous n'imaginez pas ce que je peux lire des fois. Eh ben, il faut que j'aie la tête bien froide et que je puisse continuer mon boulot et que je sache aller vers l'essentiel. C'est un boulot de funambule.
Et vous dites aussi que parfois c'est un boulot de sociologue.
Oui, mais encore comme Monsieur Jourdain qui savait pas qu'il faisait de. Et oui, je fais de la sociologie sans savoir ce que c'est que cette science, mais à la fois je fais de la pédagogie. Alors là, par contre, je le revendique maintenant parce que je me rends compte que le boulot il est essentiel. Faut tout revoir ce qu'on a mal vu depuis 30 ans et faut reparler avec les jeunes. Il faut reparler des religions. Il y a pas longtemps, j'étais avec des jeunes et je leur dis, mais vous savez, on parle de tout, nous, avec les dessinateurs de Cartooning for Peace. Il y a même un dessinateur, il a dessiné Jésus-Christ qui marche sur l'eau et puis les apôtres, ils nagent à côté et puis ils disent, mais t'es con, elle est bonne. Eh ben moi, j'adore ce genre de blague. Et alors, des fois, il regarde d'un air suspect, il me dit, voilà, il commence avec Jésus-Christ et après, il va nous parler d'autre chose. Et en fait, moi, j'aime bien déstabiliser tout le monde pour me déstabiliser moi-même. Parce qu'en fait, c'est quand on est tous déstabilisés. Et d'ailleurs, c'est bien de parler sur des chaises qui sont un peu inconfortables. Il faut jamais être dans l'inconfort. Il faut toujours être dans l'inconfort. Et des fois, je participe à des émissions de télé, des trucs comme ça. Ils me mettent dans un pouf comme ça. Et je me dis, mais quand on est dans un pouf, on est une pensée de pouf. Et voilà. Et enfin, bon, je fais le jeu de mots sans le faire. Mais à la fois, quand on est engoncé, enfoncé dans un fauteuil, on ne sait pas penser. Et moi, je revendique le droit de travailler sur un tabouret à trois pieds. Parce que notre démocratie est instable. Il faut passer son temps à se dire, tout ce qui était possible encore aujourd'hui, c'est peut-être impossible après-demain. Donc, faut le savoir.
Vous avez commencé cet entretien en nous expliquant que vous êtes né, vous avez grandi en étant très mal à l'aise avec les mots, en ayant peur des mots et en choisissant, du coup, pour compenser le dessin. Cela fait presque, voilà, une grosse demi-heure que nous parlons. Vous ne dessinez pas du tout et vous semblez désormais être très heureux avec les mots. Oui. Est-ce que parce qu'il y a maintenant une urgence de parler,
c'est à force de faire des interviews, c'est à force de. Vous savez que si les profs m'avaient pris au sérieux plus tôt, j'aurais peut-être fait des études formidables. Et là, j'ai des profs qui me reçoivent, et d'ailleurs, je les embrasse, tous les profs en France, en Europe, qui me reçoivent dans les écoles, dans des écoles, des fois dans des quartiers improbables. Et là, je me dis, il y a un boulot extraordinaire. Je suis allé dans une école il n'y a pas longtemps, quand les filles, elles vont aux toilettes. C'était un lycée professionnel. Elles y vont à trois et ça suffit pas. Il faut en plus qu'elles aient un code, sinon elles sont violées. Et là, je me dis, oh là, où je mets les pieds. Ou par exemple, dans une autre école, qui a un boulot formidable, l'école de la deuxième chance à Marseille, je montrais avec un dessinateur tunisien des dessins sur les mutilations sexuelles des petites filles. Il y avait des petites jeunes de 18 ans qui disaient, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Elles ont mal. Et tu sais qu'en Seine-Saint-Denis, 13% des femmes qui accouchent en Seine-Saint-Denis, elles sont mutilées, tu le sais ça. Bah, alors c'est leur culture. Puis non, mais attends, c'est leur culture. D'accord, mais c'est quand même une souffrance. C'est les droits des petites filles, les droits des femmes. Et donc je me dis, oh là là, le boulot qu'il y a à faire.
Cette urgence-là, peut-être, c'est elle qui déclenche autant de livres. Vous êtes venu avec sous le bras, d'ailleurs, ce qui prouve qu'en effet, vous savez très bien vendre ce que vous faites. Vous disiez que vous vendiez très, très bien. Oui. C'était quoi, des armoires lorsque
j'en suis très fier.
Vous avez apporté ces livres qui paraissent chez Gallimard, Dans la jungle de l'info. Il va y avoir du sport, des dessins de presse venus du monde entier. Et puis ce livre que vous avez co-signé avec le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubekeur, 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter. Éric Futorino vous consacre un livre, 50 ans de dessin. Il paraît même que maintenant, on vous consacre des thèses à l'université. Vous êtes devenu quoi, une espèce d'institution, une référence de quoi?
L'escroquerie continue.
Allez, faut arrêter avec ce numéro maintenant. Ça suffit, il est plus audible.
Je n'imaginais pas à quel point je le vis comme ça.
Ça relève de l'engagement aujourd'hui, tout ce que vous faites.
Alors, oui.
C'est-à-dire qu'en plus d'être dessinateur, en plus d'être journaliste, vous êtes devenu un militant?
Je suis citoyen comme vous, Émilie. C'est-à-dire que je vois bien que nos démocraties sont fragilisées. Je vois un tsunami arriver, un tsunami d'antisémitisme, un tsunami d'islamophobie, et c'est grandissant. Et nous, on a deux petits sauts pour essayer d'écoper la barque de la démocratie, et je vois bien qu'on n'est pas prêt. Donc ces chocs-là, je ne parle pas du réchauffement climatique, mais à la fois je vois bien tous ces sujets, où, les ventes d'armes. Il faut juste reprendre tout ce qui est fait notre rôle de citoyen, ne rien lâcher sur notre rôle de citoyen, et retourner dans les écoles et inviter tout le monde à se reparler et arrêter de s'envoyer des noms d'oiseaux. Même s'il y a Twitter, il faut quand même arrêter avec Trump de s'envoyer des noms d'oiseaux.
Est-ce que c'est aussi parce qu'aujourd'hui le journalisme ne suffit plus et la presse écrite ne suffit plus que vous êtes sorti du journal ?
Les débats sont essentiels. Moi, je suis étonné du nombre d'endroits où on me demande de faire des débats. Il y a des fois des intellectuels qui font des débats, qui remplissent des salles de 1000, de 2000, de 3000 places. Et moi, je me rends compte qu'il y a une attente du débat, un vrai souffle. Et je vous remercie. Je remercie France Culture pour cet oxygène et ce temps et cette qualité du son, d'ailleurs, propre à France Culture. Et qui est pour moi, par exemple, tous les samedis, moi, j'écoute Jean-Noël Jeannet. Il a revisité Babar il n'y a pas longtemps. Et c'était très intéressant parce que c'est à la fois c'est sociologique, c'est du dessin.
Ouais, formidable.
J'adore cette émission et je me nourris. Et c'est des respirations dont nous avons besoin, et on fait croire aux gens que c'est l'audimat qui va l'emporter. Ben non. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, le nombre de fois où je vais dans les écoles, ils gueulent tous contre BFM. Et en fait, j'ai vu un sondage il y a pas longtemps, les gens qui regardent, qui critiquent tellement BFM, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent BFM. J'ai mis, mais il y a un problème quand même, il faut les soigner. Donc il faut juste leur dire, regardez BFM si vous avez envie, écoutez France Culture, et croisez vos informations, et essayez de les vérifier.
Vous aviez l'air de dire à l'instant et de déplorer qu'aujourd'hui les gens vont s'informer en regardant les chaînes d'information, en regardant BFM TV, mais vous avez peu parlé au fond de votre média à vous, le journal Le Monde. Comment vous l'avez vu évoluer ce média-là et comment vous voyez aussi arriver de nouvelles générations de journalistes ?
Alors évidemment, comme ça fait presque 50 ans que j'y travaille, j'ai connu tous les cas de figure. Et en fait, tout ce que je n'ai pas appris à l'école, je l'ai appris grâce aux journalistes CE qui m'ont fait ma formation. Et ça fait drôle de se retrouver des fois dans des réunions, ils ont tous bac plus 15, voilà. Et en fait, je suis enrichi par la culture Le Monde. Comme j'ai été enrichi par la culture de mon lycée, même si je comprenais pas ce que les profs me disaient, mais en tout cas, les journalistes énormément sont revenus avec moi sur des sujets. Et des fois, quand je me trompe, quand dans un sujet ils me disent mais t'as pas compris, c'est comme ça. Et des fois, c'est eux qui se trompent. Et on échange. Et puis à la fin, vous savez, c'est quelque chose qui est le contraire des réseaux sociaux, c'est qu'il y a un moment, moi, je signe mon dessin. Et dans les réseaux sociaux, on est souvent agressé par des gens qui s'appellent Pinocchio, tête en l'air. Mais oui, mais c'est pas eux. Ils se cachent. Et on n'est pas prêt à ce travail-là pédagogique qu'il faut faire sur notre démocratie, parce que je n'ose imaginer ce que serait nos années 42-43 sous l'occupation, s'il y avait eu les réseaux sociaux. C'est pas 6 millions de morts dans les camps qu'il y aurait eu, c'est bien davantage.
Vous passez du temps sur ces réseaux sociaux ?
Non. Non, parce que j'ai quelqu'un qui fait le ménage et qui fait en sorte que quand il y a un débat sur mes dessins que je mets sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, en fait, il y a quelqu'un qui fait le ménage et qui fait que quand il y a de la haine, elle les bloque.
La nettoyeuse personnelle de Plantu.
Oui, mais c'est un boulot de démocratie apaisée. C'est-à-dire que l'opposition, elle y est. Hein. Quand les gens ils détestent telle ou telle proposition que j'ai faite en dessin, c'est normal qu'ils y soient. Mais dès qu'il y a la haine et dès que ça tire le sujet vers le bas, alors ce qui fait que je ne les vois jamais ceux-là, elle m'a dit « Non, la semaine dernière, il y avait ça. » Et donc, je me rends compte que en fait, il faut se prémunir, il faut vivre avec son époque. Les réseaux sociaux, le web, tout ça, c'est très bien. Et à la fois, faut savoir que ça peut se retourner. Donc, il faut y mettre du temps. C'est quelqu'un que je paye et qui fait le boulot d'élever le débat et faire en sorte que je ne sois pas souillé. Moi encore, c'est pas très grave parce que j'ai l'habitude, mais que les autres débatteurs sur les réseaux sociaux ne soient pas eux-mêmes souillés.
On parlait là à l'instant de ces nouveaux médias, peut-être de cette nouvelle génération de journalistes, et on n'a pas encore parlé de cette nouvelle génération de dessinateurs, ceux-là même que parfois vous encouragez ou que vous protégez par le biais de votre association Cartooning oui. for Peace. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont différents de vous, qu'ils n'ont pas les mêmes codes du dessin de presse et qu'ils ont davantage peur lorsqu'ils dessinent ?
Alors, il y a des endroits, je pense à j'ai des copains en Jordanie qui, il y a un moment, Daesh avait décidé de leur faire la peau. Donc, quand on est
là, ils ont légèrement
peur. En Jordanie, à Amman, et que Daesh vous menace, évidemment, là, il y a un problème. J'avais un copain aussi en Libye, au moment où ça a basculé de plus en plus durement, et qu'il y a des petits gamins de sa rue qui ont dit, viens, ils viennent pour t'exécuter, donc il est parti. Donc, on s'en est occupé, et c'est là où je rends hommage. Vous voyez, on a fait une rencontre il n'y a pas longtemps en Éthiopie avec les dessinateurs de Cartooning for Peace. On a fait venir 28 dessinateurs africains à Addis Abeba. Et c'est là où je rends hommage à tout le boulot qui est fait par les diplomates. Vous savez, on dit le Quai d'Orsay, mais ils font un boulot de dingue. Les conseillers culturels, les ambassadeurs, mais ils nous aident. Grâce à l'ambassadeur, il n'y a pas longtemps, en Guinée équatoriale, on a fait pression. Qu'est-ce qu'on a fait? On est des petits grains de sable, mais nous et d'autres associations comme Reporters sans frontières, Amnesty International, on a réussi à faire, au bout du compte, libérer un dessinateur de Guinée équatoriale, dont je ne savais pas que c'était une dictature d'ailleurs. Et c'est là où on se rend compte qu'on a beaucoup de chance et que ces dessinateurs que des fois je ne connais pas, je les connais, leurs dessins, je les connais tous, mais eux je les connais pas, mais j'ai l'impression d'être des sortes de cousins, parce que on a les mêmes roues dentées à l'intérieur de la tête et on pense un peu la même chose. On pense en dessin et on pense « Et toi, ton journal, ça va, il t'embête pas ?»« Oh, en ce moment, mon rédacteur en chef. » Puis en plus, Tandouille, il reçoit des coups de téléphone du ministère. Donc, j'ai même un copain qui est copte en Égypte et il me disait qu'il y avait des dessins qu'il pouvait faire alors qu'il aimait pas Moubarak à l'époque de Moubarak. Et maintenant, c'est encore pire. Voyez, et c'est là où je me rends compte que le dessinateur, c'est comme un feutre ou un baromètre qu'on plonge dans son pays. Il est le baromètre de la démocratie. Et c'est là où, vous savez, souvent des journalistes, ils commencent leur papier en disant « Ah, le chauffeur de taxi m'a dit, mais non, va voir le dessinateur de presse. C'est lui qui te dira le vrai, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans un pays. On défend des Russes. On a l'ambassadeur des droits de l'homme qui nous a aidés il n'y a pas longtemps parce qu'il y a un dessinateur qui est venu de Moscou. Il était menacé par des proches de Poutine. Maintenant, il est dans le nord de la France, et là, il y a France Terre d'Asile qui l'a accueilli, qui l'a nourri, logé, et c'est là où on se rend compte que notre démocratie fait un boulot formidable pour essayer d'accueillir des gens qui sont menacés, et puis on travaille aussi avec des migrants avec lesquels on dessine, et c'est là où on se rend compte qu'on peut les aider, on peut les aider, c'est pour ça que j'ai fait la Fondation Plantu, c'est les aider à aller au musée pour qu'ils connaissent notre culture, qu'ils viennent ici à l'Odéon, qu'ils viennent, qu'ils sachent pourquoi. Pourquoi, qu'est-ce qui fait la France? Qu'est-ce qui fait l'Europe? Pourquoi on est fier de notre pays? Pourquoi on est fier de notre drapeau? Pourquoi maintenant, quand je regarde les filles au moment de la Coupe du Monde, il n'y a pas longtemps, et qu'elles chantent ou pas la Marseillaise, et que je me dis, mais c'est génial, c'est notre culture, et on a tellement de choses à partager, et il suffit juste de créer des petits ponts, et les petits ponts, on les fait avec nos crayons.
Vous vous souvenez que vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous étiez autodidacte, que vous n'aviez pas fait d'études, autiste. Que finalement vous étiez une espèce d'autiste ou d'imposteur géante. Ouais. Aujourd'hui, parfois, vous allez à Sciences Po, je crois, vous intervenez dans cette école de journalisme. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez conquis. Aujourd'hui, vous êtes légitime à expliquer ce qu'est un journalisme libre.
On est plusieurs, on est plusieurs à raconter ça, mais.
Oui, enfin, les autres ont fait des écoles de journalistes ou se sentent pleinement autorisés à le faire.
Et je vais d'ailleurs dans des écoles de journalisme. Il y a pas longtemps, j'étais à l'école du Louvre. Un peu partout, je vais dans des écoles de journalisme. Et d'ailleurs, j'en me rends compte à quel point ça n'est pas suffisamment enseigné que la ligne éditoriale, c'est l'angle fort. Il faut pas changer la ligne éditoriale. Et la ligne marketing, moi, au Journal Le Monde, dans les années 80, il n'y avait pas de marketing au Journal Le Monde. Et moi, je disais, mais il nous faut du marketing. Au Journal Le Monde, j'étais fier. Je voulais qu'on fasse des produits dérivés. Mais à la fois, il faut que la ligne marketing, elle reste à sa place. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens du marketing, mais la ligne éditoriale, elle doit passer avant la ligne du marketing. Et de plus en plus, ça n'est pas enseigné dans certaines écoles. La ligne marketing, très bien, mais à sa place. Et des fois, je me rends compte, il n'y a pas longtemps, j'ai un copain qui travaille dans une chaîne continue, et il me disait, en pleine querelle des Gilets jaunes, la fille de la culture arrive, et le rédacteur en chef lui dit, non, toi tu rentres chez toi. Et elle dit, pourquoi ? Mais non, on est en plein Gilets jaunes, nous on va faire que Gilets jaunes pendant 3 mois, je te le dis tout de suite. Et donc la fille, elle continue à être payée sur cette chaîne, mais de télévision. Et elle n'a pas pu raconter ce qu'était que la culture. Et moi je pense que qu'est-ce qui peut soulever la démocratie chancelante en France, en Belgique, en Europe, c'est la culture.
Les gens qui vous consacrent des thèses aujourd'hui, quels sont les titres de ces thèses-là ? Vous savez ce qu'on écrit sur vous dans les universités ?
Alors, il n'y a pas longtemps, même le titre, je ne l'avais pas compris. Elle parlait de moi, la fille, qui passait sa thèse, et elle parlait avec des mots, c'était une thèse de sémiologie, là. Même le titre, j'oserais même pas vous le dire, tellement il était compliqué. Et il parlait de moi tout le temps, j'entendais bien mon nom avec les directeurs de thèse, tout ça, c'était à la Sorbonne. Et je me disais, mais je suis mort ou quoi ? Et apparemment, je bouge encore, quoi.
Vous bougez encore et merci d'être venu bouger aujourd'hui sur la scène du Théâtre de l'Odéon. Merci à vous d'être venu assister à cette masterclass. Et tout l'été, sur France Culture, des masterclass, tous les jours, à 11h. Dernière question pour finir, il paraît que vous aviez rêvé d'être musicien.
Oui.
Est-ce que ça sera la troisième partie de votre vie ?
Non, mais dans une autre vie. Moi, je suis pas croyant, mais bien que ce soit l'archevêque de Paris qui m'ait fait le catéchisme, enfin, il n'était pas convaincant. Mais dans une autre vie, malheureusement pas celle-là, mais faire de la musique de film, oh là là, j'adorerais. Michel Legrand qui est parti, j'avais une vénération pour Michel Legrand, Vladimir Cosma qui faisait les musiques de ta 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 ta, c'est lui, et on est baigné par ces musiques de film, et je trouve que c'est un langage qui est d'ailleurs, quand je suis allé à Jérusalem, où on entend les gens chanter, les Israéliens, les Palestiniens, les musulmans, les chrétiens, et en fait, qu'est-ce qui passe au-dessus du mur de Jérusalem ? C'est la musique.
Vous auriez pu devenir un artiste, au fond, finalement. Pourquoi le dessinateur n'est pas devenu artiste ?
Dessinateur, je me découvre quand même un peu artiste, mais...
Vous dites dessinateur, journaliste, citoyen. On est arrivé à la fin de cette émission, à cette trilogie-là.
Pour faire un clin d'œil à mes parents, artiste aussi, quand même.
Merci encore. À bientôt, Plantu.
C'était la masterclass de Plantu avec Émilie Aubry. Attachée de production, Nathalie Lempereur. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Clotilde Pivin.